Vous écoutez RTL.
Pour l'instant, c'est la curiosité, 14h03, avec Thomas et Sidonie.
Salut Stéphane, vous allez bien ?
Bonjour, très bien et vous ?
Ça va très bien. Alors on va découvrir un métier méconnu et pourtant omniprésent dans nos vies, celui de designer sonore. Ah, votre train est arrivé Stéphane, il faut courir. Notre invité a créé l'identité sonore de marques comme la SNCF, vous venez de l'entendre, mais aussi ADP, Peugeot. Il va nous raconter comment il invente tout ça, imagine tout ça, vers 14h30 sur RTL. Bon voyage Stéphane.
Merci.
Et à demain quand même, revenez. Hein. Allez, tout de suite, un grand destin dans la curiosité. On vous raconte Simone Veil.
La curiosité est un vilain défaut.
La vie de Simone Veil se fond avec les tourments du XXe siècle.
Le XXe siècle, il a été horrible.
RTL.
Pour 284.
La loi qui porte encore son nom aujourd'hui est adoptée parce que toute opposition de gauche a voté pour.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Cette femme de centre-droit défendait ses convictions sociales en reprenant parfois des idées de gauche, ce qui fit d'elle la personnalité politique préférée des Français.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est votre heure de curiosité sur RTL et de liberté. Nous on aime parler de tout et sur tous les tons et avec qui on veut. Bonjour Thomas.
Salut Sidonie, ça va bien?
Bien,
en pleine forme moi aussi, salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette curiosité jusqu'à 15h. Ici on se passionne, vous le savez, pour l'aventure, l'histoire, la science, la musique, la vie quotidienne, la nature et donc aujourd'hui un grand destin.
Dimanche, Simone Veil entrera au Panthéon, c'est la 5e femme à pouvoir se reposer éternellement dans cet antre jusqu'à maintenant très masculine. Qui était Simone Veil, quel a été son parcours, ses drames, ses succès? Qu'est-ce qu'elle a changé dans nos vies? Bonjour Sarah Briand.
Bonjour.
Soyez Sarah. La bienvenue, vous êtes journaliste, biographe. Simone Veil est décédée le 30 juin 2017, elle avait 89 ans. Auprès de qui va-t-elle reposer pour l'éternité?
Alors elle va reposer aux côtés de son mari Antoine, parce que c'était un souhait, en tout cas une proposition du président de la République, Emmanuel Macron, qui en a parlé, qui l'a dit officiellement, qu'il a annoncé dans la cour des Invalides, lorsqu'il y a eu cet hommage très émouvant de la nation à Simone Veil. Et puis c'était aussi un souhait de sa famille, parce que ses deux fils, Pierre-François et Jean Veil, ont souhaité ne pas séparer leurs parents, parce qu'ils ont vécu une histoire d'amour de 67 ans, donc il était logique en fait qu'ils reposent ensemble pour l'éternité.
Et les fils de Simone, Antoine Veil, étaient ce matin au micro d'Elisabeth Martichoux et Yves Calvi dans la matinale. Et Antoine Veil avait l'habitude de dire qu'il rêvait d'être dans le même nid que Simone Veil. C'est magnifique comme phrase.
Oui, parce que reposer au Panthéon, Simone Veil n'y avait même pas pensé. C'est quelque chose dont elle n'a jamais rêvé. Elle n'aimait pas les honneurs. Et c'est vrai qu'Antoine Veil avait toujours dit que Simone Veil, pour lui, reposerait au Panthéon. Il en était persuadé, mais il souhaitait l'accompagner dans ce dernier voyage. Ça, il l'avait toujours dit.
Et pourtant, Antoine Veil n'a pas toujours, en tout cas au début de leur histoire d'amour, encouragé la liberté et la carrière de sa femme. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe au début ?
Oui, c'est vrai que, alors, dans toute sa vie, il l'a beaucoup soutenue. On le verra par la suite. On va en parler, il a été là à toutes les étapes de sa vie et puis surtout il a eu l'intelligence à un moment donné de la laisser embrasser cette carrière politique pour laquelle elle n'était pas du tout destinée. Mais au départ ça a été un peu compliqué parce que Simone Veil, il faut comprendre aussi que lorsqu'elle revient des camps en 1945, lorsqu'elle revient vivante des camps, elle n'a qu'une idée en tête finalement, elle qui a perdu une grande partie de sa famille à Auschwitz et dans les camps, enfin même au-delà d'Auschwitz, eh bien elle est orpheline et elle n'a qu'une idée en tête, c'est de se reconstituer une famille. C'est son souhait principal, c'est-à-dire qu'elle devient mère de famille en fait. Elle a 3 enfants successivement. Elle accompagne son mari qui, lui, est voué à une vraie carrière politique. Il prépare l'ENA, elle l'aide à préparer ses fiches. Enfin, elle est vraiment là à ses côtés. Et puis, au bout d'un moment, elle se souvient de ce que sa mère lui a toujours répété. Parce que pour comprendre Simone Veil, il faut vraiment regarder un petit peu le destin qu'elle a eu et ce que sa mère lui a inculqué. Elle se souvient de sa mère qui, elle, n'avait pas eu la chance de pouvoir travailler parce que son mari ne le souhaitait pas, l'en avait empêché. Elle avait fait de brillantes études de chimiste. Eh bien, elle se dit qu'elle n'aura pas la même carrière, la même vie que sa mère, donc elle reprend des études, elle veut travailler, elle veut devenir avocate, mais Antoine s'y oppose, donc il ne le souhaite pas. Ça a été une vraie dispute entre eux, hein. Beaucoup de témoins de l'époque et même les enfants disent que c'était très compliqué, mais c'était mal connaître Simone Veil qui finalement avait un vrai caractère rebelle et qui s'est rendu compte que le concours de magistrate était ouvert aux femmes depuis peu de temps. Donc elle a décidé d'être magistrate et on verra la carrière ensuite qu'elle a eue, mais c'était un premier pied en tout cas dans son émancipation à la fois personnelle et puis professionnelle.
Alors rebelle, c'est le titre que vous avez choisi. choisi Simone, éternelle rebelle de votre livre qui est publié chez Fayard et en version poche aux éditions Point. On ne peut pas raconter toutes les étapes, mais la vie de Simone Veil, c'est vraiment, elle est vraiment émaillée de combats essentiels, notamment celui du 26 novembre 1974. Elle est à l'époque ministre de la Santé. On se souvient de ce discours magnifique devant l'Assemblée nationale. Vous nous rappelez ce qu'elle défend ce jour-là ?
Oui, alors ce jour-là, il faut se rappeler que c'est une femme qui est mère de famille, qui est ministre de la Santé depuis seulement 6 mois. En fait, elle a été nommée par Jacques Chirac, sur proposition bien sûr du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est une femme de 47 ans qui vient comme ça à la tribune pour défendre le projet de loi pour la légalisation de l'avortement. C'est une promesse de campagne de Valéry Giscard d'Estaing. Il veut vraiment que ce projet de loi passe parce que c'est un projet de loi qui a été plusieurs fois retoqué à l'Assemblée nationale. Et il faut se rappeler qu'en 1974, il y a des chirurgiens, en tout cas des médecins qui pratiquent l'avortement pour lequel ils sont poursuivis. Les femmes qui se font avorter le font clandestinement parce qu'en France, en fait, eh bien, elles peuvent avoir des peines de prison extrêmement lourdes.
On se souvient des faiseuses d'ange aussi.
Exactement. On se souvient du procès de Bobigny où il y avait une jeune fille défendue par Gisèle Halimi qui encourait une peine de prison. Donc c'est extrêmement difficile. Et Simone Veil porte ce projet de loi dont elle a la charge. En fait, elle a été choisie pour ça. Elle est ministre de la Santé et donc elle va mener ce projet de loi comme une vraie croisade pour défendre justement ces femmes qui partent se faire avorter à l'étranger parce qu'elles sont plus de 300 000 à l'époque.
Ouais, avec une assemblée très 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 majoritairement masculine et pour certains des députés avec des propos, des insultes, des insultes sexistes, limite antisémites, en tout cas avec un rappel au camp de la mort. On a souvent cru qu'elle avait pleuré, Simone Veil, pendant ce débat. Est-ce que c'est vrai alors ?
Alors ce n'est pas vrai, elle n'a pas pleuré, mais c'est vrai qu'elle a flanché plusieurs fois. Il y a une photo extrêmement célèbre où on la voit, prendre son visage comme ça dans ses mains, elle est penchée. Mais c'est vrai que ces 3 jours et 3 nuits qu'ont duré ce débat à l'Assemblée nationale a été très violent. Il faut se rappeler qu'il y a moins de 10 femmes à ce moment-là aussi dans l'Assemblée. Donc elle se retrouve, elle qui était quand même néophyte en politique, elle était ministre, comme je le disais, depuis 6 mois. Elle n'était pas préparée à ça. Et elle se retrouve devant cette Assemblée composée d'hommes qui sont très violents. Il y a des attaques au départ sur le projet de loi proprement dit, mais après, au fil des heures, les attaques deviennent féministes et deviennent très personnelles. On l'accuse quand même d'envoyer des enfants au four crématoire. Donc c'est des attaques, comme vous le disiez, antisémites qui la blessent profondément. Et on le voit, elle est déjà extrêmement fatiguée parce qu'il faut tenir pendant 3 jours. Et Jacques Chirac sera même obligé de venir, comme il le disait, remonter les bretelles des gens de son propre camp en pleine nuit à l'Assemblée pour la soutenir.
Et finalement, 284 voix pour, 189 voix contre. La loi qui légalise l'avortement va entrer en vigueur le 17 janvier 1974 et Simone Veil elle va entrer dans l'histoire. Elle a 47 ans et déjà elle a beaucoup vécu l'occupation allemande, la déportation, la perte de ses plus proches. Un caractère qui s'est forgé dans la douleur mais l'espoir aussi. On le raconte dans un instant sur RTL.
Tous les jours à 6h40 dans RTL Petit Matin, Cyprien Sini s'attarde sur l'info du jour qui enflamme la toile.
Et avec le graphène, la batterie de votre téléphone se rechargera à 100%, en tenez-vous bien, 7 secondes chrono.
Et dans RTL Matin à 7h20 puis 7h55, il vous présente l'info surprenante et insolite qui vous fera forcément réagir.
Chers auditeurs, vous aussi regardez vos mains, il y a de fortes chances qu'il y ait des traces de cocaïne dessus.
Cocaïne,
et ce, même si vous n'en avez jamais touché ou même jamais vu en vrai.
Alors retrouvez Cyprien Sini du lundi au vendredi à 6h40 pour le surf de l'info et à 7h20 et 7h55 pour les inattendus de RTL Matin.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Simone Veil entrera en Panthéon dimanche prochain. C'est seulement la 5e femme à avoir le droit à cet honneur avec la double prix Nobel Marie Curie, les résistantes Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle Antonioz. Et c'est la journaliste Sarah Brion qui nous fait vivre son destin. On l'a dit, on ne peut pas tout raconter parce que l'histoire de Simone Veil est d'une richesse inspirante. C'est le terme que j'ai envie d'employer. Elle naît le 13 juillet 27 et on va très vite avancer jusqu'à la guerre. Et ce moment évidemment charnière, 30 mars 1944, elle vient tout juste de passer les épreuves du bac. Ouais, imaginez-vous, si vous nous écoutez, vous venez de passer le bac. Elle vient tout juste de passer les épreuves du bac, que lui arrive-t-il ?
Oui, à ce moment-là, elle vit à Nice en fait, parce que toute sa famille vit à Nice. Elle est au lycée, elle s'est rendue compte depuis quelque temps que plusieurs de ses camarades de classe ont été arrêtés. Et même la directrice de l'établissement a convoqué sa mère pour lui dire de faire attention, de peut-être envisager une cachette pour elle. Et c'est ce que sa mère va faire. Elle va prendre deux de ses filles, Madeleine, Milou et Simone. Et Simone qui s'appelle Jacob à l'époque. Et puisque l'autre de leur sœur est partie dans la résistance à Lyon dès le début de la guerre. Donc elles sont ces deux jeunes filles dans un immeuble caché dans deux familles différentes. Simone est chez la famille d'une de ses professeurs de français, en fait, du lycée, la famille Villeroy, qui est descendante des célèbres porcelainiers. Une famille avec qui Simone va entretenir des relations jusqu'à, évidemment, sa mort. C'est une famille qui a été très chère à son cœur, on peut le comprendre. Et dans cette famille, elle va passer le bac. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle passe le bac sous son vrai nom. Parce que même si elle a de faux papiers à l'époque, elle s'appelle à l'époque Simone Jacob, mais ces faux papiers, finalement, vont un petit peu elle pense la sauver, mais lorsqu'elle passe les épreuves du bac, elle a encore son vrai nom, puisque l'académie a gardé son vrai nom. Donc, sur les listes, toute la journée du bac, elle stresse, elle est extrêmement, elle a très peur, parce qu'elle a peur d'être arrêtée même pendant les épreuves. Et c'est seulement le lendemain, effectivement, que, allant dans les rues de Nice avec quelques camarades pour fêter les épreuves, elle va être arrêtée par des Allemands, en fait, de la Gestapo, qui sont en civil. Donc, une patrouille dont elle ne se méfie pas beaucoup, mais qui va l'arrêter, qui va regarder ses papiers. Elle a de faux papiers. Donc ils vont l'emmener finalement à l'hôtel Excelsior, qui est le siège de la Gestapo à Nice. Et c'est là qu'ensuite, évidemment, ils vont remonter la filière de sa famille et arrêter sa mère et sa sœur.
Alors Simone, sa mère et sa sœur vont partir au camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. Quel est leur quotidien là-bas ?
Alors c'est un quotidien évidemment extrêmement dur. Lorsqu'elle arrive, ce qui la rassure, c'est qu'elle est effectivement entourée de sa mère et sa sœur. Elle est aussi dans ce convoi, le convoi 71 qui l'a emmenée de Drancy à Auschwitz, avec une jeune fille qui s'appelle Marceline Loridan, que l'on connaît bien, qui est quelqu'un qui témoigne encore beaucoup sur la déportation et l'extermination des Juifs. Et avec cette jeune fille, finalement, elle va essayer d'avoir un petit peu de répit, mais c'est extrêmement dur parce qu'elles sont dans un camp d'extermination. Donc il y a toujours les chambres à gaz qui sont là, qui sont une menace permanente.
Donc c'est un quotidien de travaux forcés.
Ce sont des travaux forcés puisqu'elles vont transporter de lourds blocs de pierre. Elles vont même construire cette rampe qui va servir à acheminer finalement bon nombre de Juifs qui vont partir directement au four crématoire. Ce qui est terrible, c'est qu'elles se rendent compte qu'elles participent finalement à un lieu qui va exterminer d'autres personnes.
Sarah Briand, c'est vrai que sa beauté l'a sauvée d'une certaine façon.
Oui, alors ça c'est une anecdote qui est anecdotique mais qui finalement est très révélatrice. Simone Jacob, lorsqu'elle arrive à Auschwitz, fait partie, on ne sait pas pourquoi, d'un convoi dans lequel les jeunes filles ne seront pas totalement rasées au niveau de la tête. Ouais. Donc elle conserve une apparence, comme elle le dira elle-même, finalement un petit peu humaine, elle a quelques cheveux. Et il se trouve qu'un jour elle est arrêtée dans la file de l'appel du matin par une gardienne du camp qui s'appelle Stenia, qui est une Polonaise qui a été dont beaucoup de déportés ont très peur parce qu'on dit qu'elle a tué des enfants, c'est une criminelle de droit commun qui purge sa peine dans le camp d'Auschwitz. Et cette jeune fille lui demande de sortir du rang. Donc Simone a extrêmement peur, il y a des témoins de l'époque, Marceline est juste derrière elle à ce moment-là. Et elle se rend compte que répondre à cette jeune femme, c'est risquer évidemment la chambre à gaz, parce que cette jeune femme lui propose de partir dans un autre camp, qui est le camp de Bobrek, qui est situé à 5 km, qui fait partie du camp d'Auschwitz, mais qui est un camp dans lequel il n'y a plus de chambre à gaz. Et Simone accepte, mais elle demande une faveur à cette femme, elle lui demande que sa mère et sa sœur puissent venir avec elle, et contre toute attente, justement, Stenia accepte.
Et on va vous raconter comment s'est terminée la guerre pour Simone Veil et pour sa mère, pour sa sœur, et puis comment elle a pu se reconstruire après le retour à une vie normale. Je mets évidemment des guillemets. La suite du destin de Simone Veil, c'est tout de suite dans La Curiosité.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un modèle de résilience et de femme forte comme on aime. On vous raconte Simone Veil dans La Curiosité. Elle entre au Panthéon dimanche prochain. Son mari l'accompagne. Et un peu l'envie quand même de rectifier l'inscription sur le fronton de ce monument qui salue les grands hommes. On pourrait enfin dire aux grands humains la patrie reconnaissance. Ça demandera un peu de travaux. Mais franchement, ça vaut le coup. Nous sommes avec la journaliste et biographe Sarah Briand. Vous êtes passionnée par son destin et vous en parlez superbement bien. Comment se termine la guerre, la déportation en 1945 pour Simone Veil, sa mère et sa sœur, qu'elle s'était promis absolument de protéger jusqu'au bout?
Alors c'est vrai qu'elles sont toutes les trois à Auschwitz et elles partent. Il y a cette fameuse marche de la mort qui fait partir effectivement les déportés en dehors du camp d'Auschwitz, puisque la fin de la guerre est proche. Elles entreprennent cette marche qui est extrêmement difficile. Il fait moins 20 degrés, il fait très froid, ils marchent pendant plus de 70 km. La mère de Simone Veil, Simone Jacob à ce moment-là, est extrêmement faible. Elle s'était fait opérer de la vésicule juste avant la déportation. Donc Simone va vraiment va vraiment être un soutien pour sa mère comme elle l'a été pendant toute la déportation. Et elles vont rentrer, elles vont poursuivre leur chemin et arriver au camp de Bergen-Belsen où malheureusement la mère de Simone Veil va mourir. C'est là qu'elle va mourir. Et ça va être une épreuve extrêmement difficile pour elle puisque sa mère, le corps de sa mère sera emporté sans qu'elle puisse même lui dire au revoir. Donc c'est quelque chose dont elle va se souvenir toute sa vie et qui va effectivement la marquer.
Donc Simone Veil rentre à Paris avec
elle
sa sœur.
Elle rentre avec sa sœur Milou.
Comment se passent tout bêtement les premières nuits à Paris? Comment on dort quand on a vécu l'enfer?
Ça a été très difficile, évidemment. C'est le cas de nombreux déportés. Lorsqu'elle arrive, elle est prise en charge par une tante, la sœur de sa mère. Donc elle est quand même dans un cercle familial qui la soutient, qui la protège. Mais comme le racontent tous les déportés, évidemment, elle a des difficultés à dormir dans un lit. Elle a des difficultés à parler et surtout elle a des difficultés à raconter. Parce que ce qui est extrêmement difficile pour tous les déportés qui rentrent, c'est qu'ils ont du mal à raconter ce qui s'est passé, mais surtout personne ne veut les entendre. La France du général de Gaulle à ce moment-là met en valeur plutôt ceux qui ont résisté, plutôt les résistants. Et une des sœurs de Simone Veil, qui était justement dans la résistance, va être accueillie en héroïne finalement. Elle sera même reçue par le général de Gaulle. Et c'est une blessure quand même pour Simone Veil parce qu'elle aurait peut-être voulu raconter, mais on ne l'a pas écoutée. Et c'est vrai qu'entendre la parole des déportés à ce moment-là, écouter ce qu'ils ont vécu est complètement invraisemblable et
elle
c'est difficile à entendre.
Elle mettra
extrêmement
parler,
longtemps.
Témoigner.
Exactement, elle c'est ne le fera dire... qu'après les années 75-76, une fois qu'elle sera ministre de la Santé, bien plus tard. Et ça a été difficile, même au sein de sa propre famille, ça a été difficile. Et jusqu'à très récemment, jusqu'à son décès, plusieurs de ses petites filles me racontaient que même lorsque pour des exposés à l'école, elle devait parler de la Shoah, peut-être écouter la parole des déportés. Elle se disait que dans leur famille, il y avait quand même Simone Veil, elle n'osait même pas lui poser la question parce que Simone Veil aussi imposait une certaine distance.
Simone, éternelle rebelle, c'est le titre de votre livre publié chez Fayard et qui est aussi en poche. Sidonie disait tout à l'heure ce surnom-là, le lièvre agité. Je voudrais qu'on parle un peu de sa personnalité. Qu'est-ce qui lui vaut ce surnom?
Oui, alors c'est vrai que c'est anecdotique, mais c'est très révélateur de sa personnalité parce que c'est le nom du totem qu'on lui donnait au scout. En fait, quand elle était au scout, on l'appelait lièvre agité parce qu'elle avait un caractère rebelle très affirmé. Et ce caractère, elle l'avait depuis toute petite. Même à table, elle raconte que son père l'a gardée à côté d'elle parce qu'elle avait ce caractère qui ressurgissait à certains moments. Lorsqu'en 1940, son père doit aller se faire répertorier comme juif à la préfecture de Nice, elle l'en empêche. Elle sent que le danger est proche. Donc à 10 ans, 10, 12 ans, elle est déjà extrêmement affirmée. Elle a ce caractère très fort qui va peut-être justement être une clé de ce qui l'a sauvée à Auschwitz. Enfin, sauvée est un bien grand mot, mais en tout cas, qui va l'aider à supporter cette épreuve parce qu'elle va s'opposer, comme on le disait à Stenia, une des gardiennes du camp, parce qu'elle va avoir cette force aussi qui va lui permettre de mener un certain nombre d'épreuves dans sa vie politique.
Et bah, par exemple, vous racontez dans votre biographie parue chez Fayard, Sarah Briand, qu'en 1957, Simone Veil commence une carrière brillante de fonctionnaire, haut fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire et les directeurs de prison la redoutent.
Oui, au départ, elle est magistrate, donc elle doit visiter de nombreuses prisons en France et faire des rapports qu'elle envoie au ministère de la Justice. Mais ce qu'elle découvre à ce moment-là dans les prisons françaises, on est quand même dans les années 60-70, ce qu'elle découvre, la révolte. Parce qu'elle découvre quoi? Eh bien, ce qu'elle-même a vécu presque. Enfin, en tout cas, ça lui rappelle des souvenirs d'Auschwitz. C'est-à-dire que quand elle voit des femmes derrière des barbelés, des femmes qui n'ont pas accès à des soins, qui n'ont pas accès à l'éducation, même à un livre, eh bien, ça la révolte. Donc, elle va faire en sorte de pouvoir les aider. Et justement, c'est intéressant de dire ça parce qu'on retient Simone Veil pour la loi Veil, la loi sur l'avortement, la légalisation de l'avortement. Elle ne souhaitait pas forcément que cette loi porte son nom, mais Simone Veil, c'est aussi ça, c'est aussi l'accès à l'éducation dans les prisons, c'est aussi des lois sur l'adoption, des lois même sur le tabac. Il y a aussi d'autres combats qu'elle a menés un petit peu plus dans l'ombre.
Et puis pendant 10 ans, Simone Veil va mettre sa popularité au service de l'Europe. On continue de raconter ce destin exceptionnel sur RTL. Et puis dans la seconde partie de l'émission, vous découvrirez les secrets du design sonore. Là, vous dites, mais on ne voit pas de quoi elle parle. Vous allez voir, on entend tous ce design sonore tous les jours dans notre vie quotidienne.
RTL.
Bonsoir Sarah Briand.
La loi Veil, elle a tout fait pour qu'elle ne porte pas ce nom-là. Et d'autre part, il ne faudrait pas non plus la restreindre à cette loi.
La curiosité est un vilain défaut.
En tant que magistrate, par exemple, elle a beaucoup œuvré dans les prisons, que les femmes aient accès à la culture, à des bibliothèques.
Sidonie Bonnec. Thomas Hugues.
La construction européenne, cette volonté de réconcilier les Français et les Allemands, de faire que la paix sociale puisse avoir lieu en Europe et le fait que surtout ce qu'elle avait vécu ne se reproduise pas, ça je crois que c'était vraiment ce qu'elle souhaitait avant tout.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Simone, éternelle rebelle, on se passionne pour le destin de Madame Veil avec la journaliste Sarah Briand que vous venez d'entendre dans la mise en onde de notre réalisateur Sébastien Duduit. Simone Veil va siéger 10 ans à Strasbourg à la Commission européenne. Quel genre de combat elle va mener là-bas ?
Alors effectivement, elle est élue présidente du Parlement européen au suffrage universel, c'est la première fois. Et c'était une proposition de Valéry Giscard d'Estaing qui souhaitait justement en faire un vrai symbole, c'est-à-dire la réconciliation évidemment entre la France et l'Allemagne quelques années après la fin de la guerre. Elle prend ce combat effectivement très à cœur parce qu'elle va tout d'abord mener les élections européennes que l'on connaît et affronter quand même des fauves de la politique. Il y a quand même Chirac, Mitterrand à l'époque, tout le monde la regarde un petit peu de haut en pensant qu'elle n'y arriverait pas et elle finit évidemment première. Donc quand elle mène ce combat-là, c'est quelque chose qui lui plaît parce qu'elle sent que pour une fois encore, elle va pouvoir œuvrer à la réconciliation entre les peuples. Elle va s'adresser énormément aux jeunes générations, elle va faire beaucoup de déplacements, beaucoup de meetings pour les rencontrer parce qu'elle pense par ce biais-là que ce qu'elle a vécu, elle, ne se reproduisent pas. C'est vraiment son souhait en fait que plus jamais la France et l'Europe ne connaissent ce qui s'est passé.
Quand le mur de Berlin tombe en 1989, Simone Veil est présente. Elle est main dans la main avec son mari, Antoine Veil, avec lequel elle va reposer éternellement au Panthéon à partir de dimanche. Pourquoi c'est un moment très fort pour eux ?
À ce moment-là, elle n'est pas du tout à Paris, elle n'est pas du tout à Berlin non plus, elle est ailleurs. Et quand elle entend que le mur commence à s'effriter, à tomber, elle veut être présente. Parce que pour elle, être sur place, c'est un symbole très fort justement d'être sur les lieux. Donc elle part avec son mari Antoine, son mari dont on a parlé, auprès de qui elle va reposer au Panthéon. Parce que c'est la personne qui a été la plus proche d'elle, qui l'a conseillée toute sa vie. Ils veulent vivre ce moment ensemble. Et c'est un vrai symbole, elle est là, elle est sur place. En fait, devant ses yeux, elle voit finalement ce monde, cette Europe se réconcilier. Et pour elle, c'est quelque chose de très fort. Et ce jour-là, elle prend elle-même avec son petit appareil photo des photos du mur, des graffitis, elle prend des croix gammées sur les murs et ces photos aujourd'hui sont dans les albums familiaux, ces albums dont elle a écrit toutes les légendes et qui sont toujours aujourd'hui au sein de sa famille.
Merci beaucoup Sarah Briand, passionnante et encore plus longue à lire, à découvrir sous votre plume. Simone, éternelle rebelle, c'est chez Fayard et aussi disponible en poche chez Point et aussi aux éditions Point. Simone Veil, discours pour le droit à l'avortement, très important à relire notamment pour toutes les jeunes générations. Et puis sur RTL, évidemment, on va suivre la panthéonisation de Simone Veil et de son mari Antoine. Ce sera à 11h sur RTL dimanche.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.